France Culture.
France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. L'été 2005, France Culture explorait l'archipel Claudel. Tous les chemins mènent à Paul Claudel. Eh bien, plusieurs rendez-vous ponctuaient dans la journée ces visites, ces découvertes. François Angelier étant le maître d'œuvre, le guide. Le soir, place était donnée aux archives. C'est cette série d'archives que nous vous proposons de réentendre toute cette semaine, à l'heure qui est la nôtre, c'est-à-dire la nuit. Premier épisode.
Je pense que la radiophonie est une auxiliaire inestimable du poète. Elle lui permet de se faire son propre interprète et de substituer l'intention originale à la représentation écrite conventionnelle toujours insuffisante.
Archipel Claudel, une série proposée par François Angelier.
Je peux marcher ?
Oui.
Vous me ferez signe alors ?
Oui, je vais simplement faire ça.
Claudel, témoignage. Ce soir, regard critique. Après le débat mené cet après-midi autour de Claudel, mangeur d'espace et diplomate, je vous propose une première émission d'archives, non directement claudelienne, mais consacrée à l'écrivain. Si Claudel a inlassablement produit, on a également déversé à son propos des flots d'une encre parfois grasse et surtout des torrents de paroles, le plus souvent laudatives, en tout cas passionnées. Claudel est la critique. Il a eu ses détracteurs féroces, tels le maurassien Pierre Lasserre, Paul Soudet, du temps, ou l'impayable prélat intégriste François Ducos-Bourget et ses turiféraires fidèles Jacques Madaule, Stanislas Fumet, parmi d'autres. Flamboyant, divers et substantiel, Claudel est, osons le mot, pain béni pour les exégètes. Mais avant cela, et pour faire suite à de trop rares souvenirs diplomatiques, écoutons un de ses grands amis, Henri Hopnaud, évoqué en mars 1965, leur inénarrable amitié au Brésil, où ils furent en poste avec Darius Milhaud pendant la Première Guerre mondiale.
J'ai eu le privilège, au début de ma carrière, de me trouver pendant 10 mois au Brésil le collaborateur de Paul Claudel. J'ai raconté ailleurs la légation assez singulière et fort peu orthodoxe que nous formions, lui, Darius Milhaud et moi-même. Légation qui tranchait par un certain non-conformisme sur les missions traditionnelles et guindées des autres puissances. Les soucis protocolaires ne nous absorbaient point. Nous ne cédions aux obligations mondaines que le strict nécessaire. Nous traversions salon et réception par le chemin le plus court entre l'entrée et la sortie. Mais je ne crois pas qu'à aucun moment la présence d'un représentant de la France et l'efficacité de son action se soit fait sentir au Brésil avec autant de force que pendant cette mission de Claudel. Elle ne se traduisait pas en paroles creuses mais en chiffres, en échange de salam alek ou en toasts de banquet, mais en tonnes de bateaux affrétés, en sacs de café et de haricots noirs expédiés vers une France rationnée. Aux armateurs, aux planteurs, aux banquiers qui prenaient le chemin de son bureau se mêlèrent peu à peu en nombre grandissant les écrivains, les artistes, les gens de théâtre et de musique. Quand il quitta Rio de Janeiro quelques jours après l'armistice, le prestige était grand de cette légation qui ne s'était pas cantonné dans un rôle de représentation purement mondaine, mais qui avait multiplié les liens économiques concrets entre la France et le Brésil, et vers qui la présence d'un grand poète et d'un grand musicien avait attiré l'élite de l'intelligentsia brésilienne. Fonctionnaire, écrivain, Claudel avait élevé une cloison étanche entre ces deux parts de son activité. Après la messe de l'aube, les premières heures de la matinée étaient consacrées à son œuvre lyrique. Dès l'arrivée de ses collaborateurs, le diplomate ne se lève d'ailleurs pas très tôt, les cahiers personnels se refermaient et tout le reste de la journée était consacré à l'accomplissement des devoirs professionnels. J'ai connu autour de moi, tout au long de ma carrière, un certain nombre de collègues qui faisait aux lettres une cour plus ou moins heureuse. Et le résultat était généralement qu'il présentait figure d'amateur, soit comme écrivain, soit comme diplomate, et parfois les deux en même temps. Ce n'est que chez Paul Claudel et chez Saint John Perse que j'ai vu le grand poète et le grand commis coexister dans une même personne et dans une si parfaite séparation des tâches que leurs collaborateurs pouvaient ignorer longtemps qu'ils écrivaient et leurs lecteurs qu'ils servaient l'État. Et je n'ai vu personne s'acquitter avec une conscience plus scrupuleuse, un soin plus méticuleux des tâches les plus infimes ou les plus ingrates qu'impose la servitude administrative que ces deux fonctionnaires modèles qui furent les deux plus grands écrivains de notre temps.
Après Henri Hoppenot, place maintenant aux critiques. Le feu sera ouvert, et avec quelle ardeur, par Max-Paul Fouché, qui, le 17 août 1948, initiait le public de l'Alliance française aux robustes vertus du claudelisme.
C'est un constructeur énorme, et c'est une sorte de vivant colossal. Il y a en lui, je ne sais quel athlétisme. Lorsqu'on le rencontre, et là je ne peux pas faire autrement qu'évoquer un souvenir, parce que j'ai rencontré notamment Claudel quelques mois après la libération de la France, à un déjeuner où j'étais convié par des amis communs. Je n'avais jusqu'alors jamais rencontré Paul Claudel. Et j'étais frappé de voir cet homme qui avait à ce moment-là 77 ans, de voir l'extraordinaire force physique, ce sentiment de force physique qui se dégageait de sa personne. Il était là dans un fauteuil tapis, buisson, prêt à bondir avec quelque chose de taurin, malgré son grand âge, c'était extrêmement impressionnant. Je me souviens aussi de l'étonnante conversation qu'il tint pendant tout le repas, non moins que de son singulier appétit. L'appétit de Claudel, je crois que je n'en connais qu'un autre, enfin, qui puisse lui être comparé, c'est celui d'André Gide. Mais c'est tout à fait différent. Lorsqu'on apporte un plat à André Gide, il en prend d'abord très très peu. Du bout des lèvres, il le goûte. Puis il est mis en confiance, il appelle alors à ce moment-là la domestique et prend à peu près tout ce qui reste sur le plat. Mais il goûte d'abord. L'appétit de Claudel, ou tout au moins l'appétit que j'ai vu à Claudel, est tout à fait différent. Claudel ne s'amène pas, ne va pas vers les plats comme un vieux renard, pas du tout. Non, non, il y va carrément, un peu comme un taureau qui fonce, et c'est carrément qu'il se sert. Eh bien, tout au moins, c'est l'impression qu'il m'a donnée ce jour-là, je puis me tromper. Mais je trouve que ce petit détail caractérise assez bien les deux hommes, l'espèce de précaution, de manque d'aventure, de suspicion qu'il y a toujours dans Gide. On ne part qu'à bon escient, on ne se laisse entraîner qu'après mûre réflexion. Voilà quelque chose qui n'est pas du tout claudélien à coup sûr. Quelqu'un un jour a dit de Claudel que c'était un grand barbare chrétien. Eh bien, je trouve que l'expression est tout à fait remarquable. Il y a de ça chez lui. Et si vous pouviez voir de votre place cette photographie, je vous la ferai circuler tout à l'heure, c'est Claudel à 50 ans, n'est-ce pas ? Le torse dénudé, voyez-vous, absolument carré, il s'est fait photographier le torse nu, le torse forte avec une pilosité très remarquable, enfin les poils sont en nombre, n'est-ce pas ? On pense un peu à je ne sais quoi, enfin à certains dictateurs qui se faisaient photographier le torse nu au milieu de marais qu'on venait d'assécher. Ben, il a tout à fait l'air d'un travailleur des champs et en même temps d'un athlète. C'est là cet athlétisme dont je vous parlais tout à l'heure. Nous verrons tout à l'heure que cet athlétisme a dans l'esprit, dans l'intelligence et le génie claudélien son répondant. Oui, c'est un homme en tout cas qui est d'une force sur ses pieds singulière. La solidité de ce monde, dit-il, la solidité de ce monde est la matière de ma béatitude. Eh bien, voilà une belle phrase, une phrase claudélienne par excellence. La solidité de ce monde est la matière de ma béatitude. Il y a de tout chez Claudel. Je vous parlais tout à l'heure de cette conversation. J'aurais aimé qu'on l'enregistrât plutôt que m'enregistrer aujourd'hui. Car véritablement, cette conversation à bâton rompu était une des choses les plus extraordinaires qui fut. Il nous décrivait la libération de Brangles, l'endroit où il s'est retiré, comme je vous le disais tout à l'heure, et il nous parlait des FFI, des troupes françaises de l'intérieur qui libéraient le pays. avec beaucoup d'enthousiasme, quand soudain, il s'arrêta et il dit « Mais au fond, est-ce qu'ils étaient baptisés ?» Cette question à brûle-pourpoint est extrêmement claudelienne, n'est-ce pas ? C'est tout à fait le genre de conversation qu'on peut avoir parfois avec Claudel, où lorsqu'on arrive sur les sommets, soudain, il stoppe, n'est-ce pas ? Il freine, enfin, il s'arrête pile, si vous voulez, sur les quatre pattes, allez-je dire. Pas du tout, s'il m'entend en ce moment, ça doit être drôle. Eh bien, et soudain, dit une chose que l'on n'attendait absolument pas à l'improviste et qui est parfois absolument énorme. Par exemple, dans un de ses textes, qui est un des plus beaux textes, un texte sur la cathédrale de Strasbourg, il parle de l'Alsace avec couverte de neige, comme une immense nappe sur laquelle la cathédrale est posée. Et après cette dizaine de pages d'un lyrisme absolument extraordinaire, comme seul Claudel peut en avoir, il s'arrête et il dit « Et Freud ?» Et Freud. On ne sait pas très bien ce que Sigmund Freud vient faire dans cette chose, mais ce qu'on sait, c'est qu'immédiatement, Claudel commence, alors part sur une autre voie, et dit à propos de Freud des choses qu'un écolier ne dirait pas, d'une épaisseur et d'une sottise absolument incommensurable, aussi incommensurable que le reste était incommensurablement beau et puissant. Il y a des choses comme ça que Claudel n'a pas du tout comprises, qui n'a pas encore comprises. La guerre d'Espagne, par exemple, eh bien, il n'a pas compris. Il n'a pas compris exactement de quoi il retournait en Espagne, et c'est ainsi que l'attitude d'un François Mauriac vis-à-vis de la République espagnole le met chaque fois qu'on lui en parle dans une fureur noire. Je crois qu'il faut à Claudel un certain nombre d'années pour comprendre les choses de cette espèce, et le nombre d'années sur certains problèmes n'est pas encore assez grand pour qu'il soit arrivé à bien les comprendre. Il y a chez lui une sorte de comique d'ailleurs singulier, un comique qui provoque, n'est-ce pas ? Il aime beaucoup s'avancer à la façon d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, et surtout lorsqu'on ne l'attend pas. Lorsqu'on lui pose des questions, il répond toujours d'une façon, très souvent, pas toujours, mais très souvent d'une façon provocante, et c'est ainsi qu'un jour, on lui demandait ce qu'il fallait penser, après tout, de Stendhal, il répondit « Ah, moi, je préfère Eugène Sue ». Eugène Sue, je ne sais pas si vous le savez, c'est un feuilletoniste, c'est un homme qui écrivait des histoires dans les bas de journaux, n'est-ce pas ? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est une personnalité qui, dans tous les sens, porte des branches, se multiplie non seulement dans le poétique et dans le mystique, mais aussi dans le comique, dans la sensualité également, dans le tragique, dans toutes les directions. Il y a une chose étonnante lorsqu'on le voit, lorsqu'on l'écoute et aussi lorsqu'on le lit et lorsqu'on suit ses articles dans les journaux, dans les quotidiens, qu'il écrit assez souvent, somme toute, on a l'impression d'un homme qui est, si vous voulez, en prise directe avec la vie, n'est-ce pas ? Et chez qui il y a une espèce de violence physique permanente. Tout est mouvement, dit-il, tout est mouvement. C'est ce qu'il écrit dans l'art poétique. Tout est mouvement, eh bien, tout est mouvement, c'est vrai, et c'est vrai à l'image de Claudel. Nous comparions l'année dernière Peggy à une sorte de pèlerin ou de troupier qui s'en allait le long des routes françaises et particulièrement sur la route de Chartres, vous vous souvenez de ce que je disais. Si j'essayais maintenant de trouver une image qui représentât Claudel, je dirais qu'au fond, Claudel, ce n'est pas un troupier qui s'en va ou un pèlerin, mais c'est une tribu en marche, toute une tribu. D'ailleurs, cette tribu, la tribu claudelienne, la tribu qu'est Paul Claudel, cette tribu, comment dirais-je, est poussée, est dirigée, conduite par un véritable appétit d'Éden. Et c'est au fond ce qui va nous conduire maintenant à étudier, après avoir dit quelques mots sur l'homme, des mots peu respectueux, mais comme c'était son anniversaire il y a 15 jours et qu'il a demandé qu'on ne soit pas respectueux pour son anniversaire, je pense que s'il écoute cette émission, il sera absolument servi. Et je crois qu'il y a un respect bien supérieur au respect ordinaire. Le respect ordinaire est toujours une chose qui montre un éloignement, un écartement, en tout cas une distance, au lieu que parler, comme je l'ai fait, je voudrais que ça me témoignât à l'égard de cet immense poète que d'un très vif respect et d'une sympathie indiscutable. Claudel, cela ne vous étonnera pas, après ce que nous venons de dire de l'homme, a fait alliance avec les éléments. avec ce qu'on pourrait appeler, au fond, la matière première du monde. La nuit, la terre, la mer, tout cela l'emplit de joie, une espèce de joie orgiaque même. Mais vous allez me dire, voilà qui n'est pas absolument catholique, pas absolument dans le dogme, fidèle au dogme, il y a plutôt une sorte de paganisme. Eh bien oui, mais ce paganisme, Claudel l'a exorcisé. Vivre, dit-il, est une chose étonnante, une chose puissante. Voilà, si vous voulez, le premier credo de Claudel. Voilà d'où il part. D'une sorte de goût et de passion intense pour la vie, pour tout ce qui constitue l'univers, pour tout ce qui constitue le monde, pour les éléments, pour la matière première, si vous voulez. Oui, mais ce goût pour les éléments, pour la matière première, pour la vie, ce goût, eh bien, n'empêche pas, en dépit de la joie qu'on peut recevoir, n'empêche pas qu'il y ait le néant, qu'il y ait la mort. Si l'on regarde le monde, certes, si l'on regarde le monde, si l'on regarde l'univers, si l'on regarde la création, bien sûr, on peut en éprouver une joie intense. Mais à trop regarder la création, à trop regarder le monde, à trop regarder l'univers, bientôt on s'aperçoit que toutes les choses s'effacent et laissent la place à une sorte de vertige, à une sorte de vide, non pas à l'être, mais au non-être. Et c'est ainsi que dans les premières œuvres de Claudel, on trouve ce sentiment extrêmement sombre du non-être dans la ville qui est l'une de ses premières œuvres, dans la ville, un personnage qui s'appelle Bème répète un peu à la façon d'une litanie cette seule phrase « rien n'est, rien n'est, rien n'est ». Et au fond, c'est Claudel qui a parlé du bagne matérialiste. Le bagne matérialiste, au fond, c'est le monde matériel dans lequel nous sommes condamnés à vivre. Mais après avoir été à la fois passionné et joyeux du monde, et en même temps désespéré par le néant que l'on sent derrière le monde, il fallait au fond une sorte de conclusion, si vous voulez, il fallait que tout ça puisse s'entendre à l'intérieur de cet homme, et c'est là que la conversion de Claudel au catholicisme, ou plus exactement, sa marche vers un catholicisme de plus en plus fort, de plus en plus décidé, est venue apporter la solution. Il faudra que Claudel gagne la joie. La joie, ce n'est pas ce qui est drôle, la joie, c'est ce qui donne à l'âme son entière puissance. Il faudra que Claudel atteigne à ce qui caractérise son lyrisme au plus haut point, qu'il atteigne à une sorte de jubilation solaire. Jubilation solaire, une sorte de jubilation solaire. J'emprunte cette expression à l'un des plus grands critiques de poésie contemporain, à l'ancien critique de poésie de la Nouvelle Revue Française, à Gabriel Bounour. Eh bien, une sorte de jubilation solaire, cette expression de Gabriel Bounour, me paraît tout à fait remarquable pour indiquer à quoi Claudel est arrivé. Mais comment est-il arrivé là? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Claudel est l'homme qui a la conscience la plus aiguë des choses de ce monde. Or, les choses, dit-il, les choses ne trompent pas. Ce qu'il faut, c'est savoir ce que les choses veulent dire. Écoutez-le. Il n'y a pas une séparation radicale entre ce monde et l'autre. Les choses sont réellement une partie, au moins, de ce qu'elles signifient. Or, pour Claudel, toutes les choses vivent en Dieu. Elles vivent en Dieu, et si vous voulez, toutes les choses sont une image, sont des images partielles de Dieu. Aussi, le poète, si véritablement il est conscient de l'existence des choses, sera-t-il mené fatalement vers la conscience la plus totale de Dieu. Si vous voulez, Claudel est à la fois un mystique et un réaliste. Mystique et réalisme, voilà, si vous voulez, ce dont se compose toute la poésie et toute la pensée de Paul Claudel. Si je dois la résumer brièvement, ce qui est le cas ici, c'est bien ce qu'il faut dire. Mysticisme plus réalisme égale Paul Claudel, si vous voulez, pour simplifier à l'extrême. Ou bien, pour aller plus loin, nous dirons que le génie de Claudel est un réalisme mystique, c'est-à-dire, encore une fois, comme nous le disions tout à l'heure, que les choses existent pour lui et que ce sont les choses et l'existence des choses qui le conduisent vers Dieu. Voyez-vous comme c'est intéressant, parce que on voit à ce moment-là que Claudel ne ressemble au fond ni à un mystique pur comme Saint Jean de la Croix, dont je vous lisais tout à l'heure un texte, ni à Saint Jean de la Croix, ni à Rimbaud, ni à un poète pur, si vous voulez, comme Rimbaud. Saint Jean de la Croix, c'est le mystique qui brûle le réel, qui brûle toute chose pour arriver à Dieu. Rimbaud, c'est le poète qui, dans un mouvement de révolte, jette le monde au loin, se révolte contre le monde. De deux façons différentes, Saint Jean de la Croix et Rimbaud récusent, rejettent ou brûlent le monde, brûlent le réel. Claudel, c'est tout à fait différent. Lui ne brûle pas le réel, lui ne se révolte pas contre le monde. Il essaye au contraire de prendre le monde, de saisir le monde, pour organiser le monde et pour, dans cette organisation du monde, voir la preuve de l'existence de Dieu. Si vous voulez, loin d'écarter, de rejeter le réel, Claudel assume, prend sur lui, groupe en lui tout le réel. Il a le sentiment du spirituel, comme un mystique, si vous voulez. Il a le sentiment du spirituel, mais le spirituel, il le trouve dans le sensible, dans ce qui tombe sous le sens. Et rien n'est plus évident lorsqu'on lit certains de ces textes. Oui, je vais vous lire plutôt un fragment de la messe là-bas, un fragment qui s'appelle Introïte. Mais avant de vous le lire, je vous donnerai encore cette explication. Nous venons de dire que Claudel est quelqu'un qui a le sens du réel, qui ne brûle pas le réel, qui ne se révolte pas contre le monde, qui au contraire se saisit du monde pour aller vers Dieu. Cependant, il y a un moment où le monde lui paraît absolument transparent, où il se sent pris d'un certain vertige et où il sent à nouveau le néant. C'est à ce moment-là qu'intervient pour Claudel la grâce céleste. C'est à ce moment-là que Dieu, au fond, comble Claudel, pourrais-je dire. Eh bien, c'est ce qu'on sent dans un poème comme celui que je vais vous lire, dans l'introïte de la messe là-bas. Une fois de plus, l'exil. L'âme toute seule, une fois de plus, qui remonte à son château. Et le premier rayon du soleil sur la corne du Corcovado. Tant de pays derrière moi commencés sans que jamais aucune demeure s'y achève. Mon mariage est en deçà de la mer, une femme et ses enfants que j'ai eus en rêve. Tous ces yeux où j'ai lu un instant qu'ils me connaissaient, tous ces gens comme s'ils étaient vivants que j'ai fréquentés, tout cela est pareil une fois de plus à ces choses qui n'ont jamais été. Ici, je n'ai plus comme compagnie que cette augmentation de la lumière, la montagne, qui fait un fond noir éternel, et ces palmiers dessinés comme sur du verre. Et quand la création, après le jour sans heure, se condense une fois de plus du néant, fidèle à l'immense quai, chaque soir, je vais revisiter l'océan. La mer et ce grand campement tour à tour avec un million de feux qui s'allument. L'Amérique avec toutes ses montagnes dans le vent du soir comme des nymphes couronnées de plumes. L'océan qui arrive par cette porte là-bas et qui tape contre la berge haute sous le ciel chargé de pluie de toutes parts. Ces chandelles de 50 pieds qui sautent. Mon esprit n'a plus de repos que la mer, c'est la même douleur démente. La même grande tache de soleil au milieu, sans rien, et cette voix qui raconte et qui se lamente. Voici la contagion de la nuit, qui gagne tout le ciel peu à peu, le jour après 6 jours qui fait 7 et pas un qui ne me rapproche de Dieu. Quand mes pieds connaîtront le repos, quand mon cœur aura fait alliance avec la nuit, qu'est-ce qui commencera pour toujours aussitôt que tout sera fini? Est-ce que je verrai quelque chose pour moi dans le ciel se dédoubler comme les feux qui marquent l'entrée d'un port, ou cette étoile près de la croix du sud qu'on appelle Alpha du Centaure? Un peu plus loin, ce chaos de feuilles et de fougères dans le soleil, ce séjour de ma 50e année, ce ne serait pas plus difficile, rien qu'à l'œil en se fermant, de l'abolir, que ce ne fût de la patrie où je suis né. Ce serait ce village jadis aimé quand naissait ce charmant sourire, que ce ne serait pas plus difficile aux yeux, en se fermant, d'en faire pour toujours un souvenir. Plus loin encore, ce mot qui est comme le consentement à la mort, votre présence au-delà de toutes les images. Ce n'est pas payer trop cher de mourir, mon Dieu, afin que vous existiez davantage. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous repoussé, mon âme, pourquoi êtes-vous triste? Que me veut cet ennemi en moi qui s'attarde et qui résiste? À l'heure où les grands palmiers se réveillent tout ruisselant de la rosée matinale, et l'on voit une raie d'or la mer au bout de la chaussée coloniale, de ce qui n'était que beauté pour passer à ce qui est amour, il faut profiter de cet appel qui précède celui du jour. Voilà certes une pensée absolument claudelienne. De ce qui n'était que beauté pour passer à ce qui est amour, il faut profiter de cet appel qui précède celui du jour. Je ne peux pas vous lire tout ce poème qui est trop long, mais vous voyez l'ampleur. Surtout, ce qu'il faut voir, c'est que Claudel, la poésie claudelienne, se meut d'une façon permanente dans un monde de correspondance. Vous vous souvenez ce que nous disions il y a une semaine sur le sonnet des correspondances de Baudelaire? Eh bien, on pourrait le reprendre, mais sur un autre plan, sur un autre ton, à propos de Claudel. Pour Claudel, voyez-vous, toutes les choses sont liées, toutes les choses s'organisent. Il n'y a rien qui soit indépendant. Il n'y a rien qui existe en soi, ni qui existe pour soi. Tout existe dans l'ensemble, dans le tout, dans l'univers. Et ce que veut Claudel avant tout, c'est arriver avec chaque chose à restaurer l'univers dans sa totalité. Et c'est pourquoi on a pu dire que Claudel était le poète du monde. « J'ai reçu le privilège, dit-il, j'ai reçu le privilège de rassembler dans mon esprit toutes les figures. Et encore, aucune chose me reste plus seule, mais je l'associe à une autre dans mon cœur. » Voyez-vous comme Claudel est au fond, comment dirais-je, une sorte de grand rassembleur, de rassembleur de la terre et de Dieu. Il essaye, au fond, une synthèse. Toute son œuvre est une tentative de synthèse. Il essaye, encore une fois, de rassembler la terre et Dieu. Mais ce que vous avez remarqué aussi dans les textes que j'ai pu vous lire de lui, c'est cette espèce d'ampleur souveraine du rythme. C'est l'art de Paul Claudel qui est tout à fait particulier et qui répond étonnamment à son message profond. La prosodie de Claudel, la façon d'écrire de Claudel, est tout à fait particulière. Le vers, chez lui, est rare d'ailleurs. Le vers est remplacé par ce qu'on appelle le verset. Eh bien, le verset est quelque chose qui jaillit de l'esprit de Claudel. Et un jour, il a défini, voyez-vous, le vers de cette façon. Une fonction, a-t-il dit, double et réciproque, par laquelle l'homme absorbe la vie et restitue dans l'acte suprême de l'expiration une parole intelligible. Je répète cela parce que ça me paraît une admirable définition de la poésie claudelienne. Une fonction double et réciproque, par laquelle l'homme absorbe la vie et restitue dans l'acte suprême de l'expiration une parole intelligible. Au fond, tout se passe un peu comme si la poésie claudelienne était d'une façon quasi permanente une sorte de respiration. Le poète aspire et expire, appelle en lui le monde et l'univers et chaque aspect et chaque objet et chaque chose du monde et rejette, si vous voulez, expire l'expression de ce qu'il a aspiré profondément. Le poème est donc, la poésie est donc pour Claudel, le vers est donc pour Claudel, une fonction double et réciproque par laquelle l'homme absorbe la vie et restitue dans l'acte suprême de l'expiration une parole intelligible. Eh bien, c'est ce qui vous explique que Claudel, que toute la poésie claudelienne donne cet aspect à cet aspect de poésie presque orale, de poésie presque parlée. C'est une poésie d'effusion à certains moments, où toutes les fantaisies sont permises, où les humeurs du poète passent et qui se permet parfois d'être une sorte de grand discours et de discours presque prophétique.
Après cette exaltation signée Max-Paul Fouché, un écrit de combat. Claudel, incessamment bandrillé, se devait d'avoir des défenseurs à la hauteur. Lors de la seconde mise en scène de Tête d'or en 1968, c'est le poète Henri Pichette qui monte au créneau pour défendre la Tête d'or contre le mépris des culs de plomb. Son texte nous est lu par Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud.
Tête d'or. Le premier phénomène que je constate est celui de la provocation de la jeunesse dans son innocence à merveille cruelle. Voyons. Tête d'or est inspiré à un poète de 21 ans. Ainsi marque-t-il au coin du génie sa majorité civile. Puis, il parfait l'œuvre entre 25 et 26 ans. Il la pousse aux limites de l'aspiration la plus profonde et de la plus large santé possible. Car il se veut d'une santé insolemment totale, Claudel jeune. Il se nourrit d'Homère, d'Eschyle, de Virgile, de Dante, de Shakespeare. Et, permettez, il écrit sous de tels auspices. C'est tout bonnement fatal qu'il dispose la terre comme une table à la mesure de sa soif, de sa faim et de son désir. Tous trois immenses. Il faut que je puisse tenir tout l'appétit, toute l'ambition. Mais voilà, mais surtout, il a eu dernièrement quelque chose de touché en lui, quelque chose d'au-delà l'esprit, d'au-delà l'intelligence, l'âme, et par qui atteinte, incitée, secouée, pénétrée, mise à vif, son âme, par la parole de l'homme aux semelles de vent, ce voyou voyant de Rimbaud. La poésie fait adolescence de toute éternité. L'étincelle est qui percute ce bloc de granit sensible, au fin fond, touché dans le cœur de l'âme, Claudel, alors, aura senti se mouvoir sous lui, comme du simple sable, ce qu'il avait cru être le socle le plus certain. Voilà que la poésie dressait en travers de sa route une agonie, une crucifixion et un carmel et une ascension. Il y aurait eu vraiment jadis une tombée de langue de feu sur des fronts purs, une désignation, s'abandonner. Ne résistera-t-il ? Se compte-t-il de ceux qui se laissent priver si facilement, si crédulement? Ne hurlera-t-il point aux vérités visibles avant qu'on ne l'apprivoise, lui, bête sanguine et virile, les muscles épris de soleil et si jeune, si en force, tout avide d'avoir l'être, lui, en possession déjà des moyens prodigieux? Attend-on de sa personne autre chose que conquérir terre et astres nouveaux? Et le veut-on un type autre que raciné dans les entrailles du monde? Il verra bien si la grâce est mondiale ou l'enfer, et lui aussi poète juré, il y risquera la perte de l'esprit. Il est mûr pour composer Tête d'or. Tête d'or sera l'expression du plus haut désir d'éternel qu'il soit donné à un jeune homme de réaliser dans la métaphore, immédiatement. Et c'est au départ la vindication de la part humaine la plus naturellement vaste, universelle et impérissable. Fouillez mon cœur, et si vous y trouvez rien autre qu'un désir immortel, jetez-le au fumier et qu'une poule l'emporte au bec. Je ne viens pas ici avec une pensée vile.
Ainsi Claudel fit-il parler son héros. Nous sommes avertis. Mais n'oublions pas qu'il écrit Tête d'or sous la menace parfaite de son dieu et qu'il tâche loyalement de résister à ses aimants, qu'il fait tout ce que la dignité lui permet pour ne point tomber dans ses liens, fins comme la salive filante des enfants. Il s'agit, à l'âge où Claudel compose Tête d'or, de rien de moins que la protestation de son innocence, et certes la moins soupçonnable. C'est le baiser à la terre maternelle, et la morsure suscitée, et le gémissement prochain. C'est le verbe, tel qu'un oiseau au vol, à pleine et à belles dents, saisi. Or, Tête d'or est avant tout l'œuvre de la toujours actuelle grande question, simple et brève, et dont les répercussions vont au plus loin lorsqu'elle se pose aux inspirés. Pourquoi suis-je ? Ainsi porté dans le théâtre, propulsé parmi l'espace mental du public, cela se communique. Pourquoi sommes-nous ? Pourquoi l'homme ? Pourquoi moi ? Et qui peut mieux relancer l'interrogation que la jeunesse encore au sortir du génie naturel ? Est-il en l'homme une âme à perdre ou à sauver ? En chaque homme ? Sérieusement ? Y a-t-il à faire corps avec la plus terrestre famille ? Y a-t-il à tirer son épée sanglante du jeu ? Ou ne reste-t-il qu'à être seul, jusque dans le trépas ?
Que dire ? Que faire ? À quoi emploierais-je ces mains qui pendent, ces pieds qui m'emmènent comme le songe nocturne ?
Tenez, dans le seul titre, Tête d'or, réside toute la sublime folie du jeune homme qui veut se mettre les espaces infinis au diapason de sa voix et qui n'embrasse l'ensemble de la création que pour satisfaire à sa propre vie. On entend le heurtement du poing et du talon contre la croûte de la terre pour qu'elle réponde une douleur ou une jouissance peut-être, mais qu'elle soit au moins de quelque chose à ce quelqu'un. Le lien où se puisse formuler la proclamation de la force d'homme, même divinement païen.
Un esprit a soufflé sur moi, et je vibre comme un poteau. Cébès, une force m'a été donnée, sévère, sauvage. C'est la fureur du mal, et il n'y a point de femme en moi.
Que Tête d'or montre de goût spécial pour la vie ardente, de goût violent pour la journée. J'y vois le bond du cœur par-dessus les sommeils ou les désespérances. J'y tiens le relais, le témoin de l'athlète poétique qui parle pour s'entendre émis et avec l'univers. Toujours le commerce cosmique entre l'immarcessible océan et l'eau de pluie sur la pierre, la sève laiteuse des feuilles et le train de sang qui traverse le cœur minuté. Car il y a le temps. Et en Claudel, et en Tête d'or, comme en Cébès, le dialogue de la vie et de la mort, le temps.
Moi-même, je me suis ma table et mon lit. Je ne mourrai point, mais je vivrai. Je ne veux point mourir, mais vivre. La mort, pensée, action qui dorme, comme les nouveau-nés ramènent les cuisses vers le ventre, se racoquine au moule maternel. On cesse de vivre. Le souvenir, la vieillesse, le malade se réveille tout seul, et tandis que la pluie donne contre les vitres, il entend le bruit d'une cuillère d'argent qui tombe en bas. Oui, Simon Agnel, et c'est bien Rimbaud qui s'était écrié « Je ne suis pas né pour devenir squelette. » Et d'aujourd'hui, c'est bien Claudel qui, par la bouche de Cébès, lui répond en écho « Je mourrai comme un quadrupède et je n'existerai plus.
Tête d'or. Ah, bataille. C'est donc bien le déchirement de vivre avec mourir au cœur tout tressautant du jeune être tant doué de vigueur, de feu et de clarté. L'explication à coups de masse d'armes dans le sentiment lucide du grand enfant instinctif au cœur de son cœur.
Oui. Quelle chose c'est que de vivre, quelle chose étonnante c'est que de vivre, quelle chose puissante c'est que de vivre. Celui qui vit et qui pose les deux pieds sur la terre, qu'en vit-il donc ô Dieu? Et Pichette conclut, c'est pourquoi, entre mille exemples de vigueur, le Claudel de 20 ans, ce poète, est à défendre comme un principe vital. Que le théâtre ne soit point coupé de la vie, qu'il figure dans les limites du génie qui se propose d'élargir l'entente et de fortifier la confiance des hommes, non simplement dans leur vie propre, mais aussi en la mort. Tout le théâtre authentique, c'est-à-dire premier, nature, heureusement insolent et anti-coutumier, et cependant perdurable, a tout à voir avec le sang qui passe et le boutoir de la mort que les poètes ont mission de faire vibrer.
Chemins mènent à Claudel, même les plus curieux, même les plus tordus. En témoigne l'aventure du converti André Frossard, qui fit longtemps au Figaro, tel Claudel, cavalier seul.
Ma foi, peut-on le dire sans s'exposer au pire, c'est le canard enchaîné qui m'a rendu claudélien. L'aimable satirique avait publié, il y a déjà fort longtemps, un texte de Paul Claudel, pour en rire, bien entendu, où il était question de la Vierge Marie, dont le poète disait qu'elle était sourde à force d'être lumineuse. Et naturellement, le canard enchaîné, de s'esclaffer devant cette surdité, pour ainsi dire, photogénique, et devant cette lumière assourdissante. Mais à moi, l'image avait paru si vraie, et même d'une précision si rigoureuse, que je me suis mis à lire tout Claudel, à commencer par ce qu'on lit le moins et qui m'a toujours paru le meilleur, c'est-à-dire ses commentaires bibliques. Et ce fut pour découvrir, avec ravissement, que l'humour jouait dans son œuvre le rôle de ce que les théologiens me permettront d'appeler une quatrième vertu théologale. Et c'est ici le lieu de remarquer, pour fléchir les théologiens, que l'humour et l'humilité semblent avoir la même racine. L'œuvre de Claudel n'est assurément pas une œuvre comique, et cependant le comique est certainement l'une des clés de ce merveilleux édifice traversé de personnages bouffons qui apparaissent de temps en temps aux fenêtres pour adresser quelques joyeux signes d'inintelligence au public. Le rire de Claudel ne provient pas d'un mépris presque désespéré de la nature humaine, comme chez Molière, ni des multiples chocs de la raison contre le désordre du monde, comme chez les douloureux humoristes de l'absurde, mais tout au contraire d'une sympathie robuste pour les êtres créés et d'un sens aigu du bon ordre des choses. Pour Claudel, toutes les créatures sont en état de connivence. Du brin d'herbe à la nébuleuse, toutes les formes sont complémentaires et coopératives. Et tout être par quelque crochet, main, griffe, racine, désir, amour ou mandibule est relié aux autres de manière à former avec eux, par échange, communion, dialogue, ce que les peintres ou les musiciens appellent une composition. Leurs différences et leurs inégalités elles-mêmes, les mettent en rapport du plus petit au plus grand, comme les degrés d'un escalier. Toute la difficulté pour les exécutants consiste à trouver d'abord et à occuper ensuite la place qui leur revient dans ce concert universel. Et il y a pas mal de maladroits qui ratent les marches du bel escalier dont je viens de parler. D'autres arrivent en retard, déballent leur instrument et attaquent l'ouverture quand l'orchestre en est au troisième mouvement. Le poète est là, qui leur donne un instant la vedette avec son projecteur et son gros rire absolutoire. Imaginez un petit personnage de Bruegel qui aurait dégringolé de la toile, accroché au bord du cadre et qui essaierait avec toutes sortes de contorsions et mimiques de regagner son poste à l'endroit fixé par le peintre et n'y parvenant qu'à grand-peine après avoir bousculé ses voisins de sujet. C'est un peu cela, le comique de Claudel. Il naît de ces personnages littéralement déplacés qui n'ont pas toujours conscience de leur position excentrique, et nous-mêmes ne nous en rendrions-nous pas compte si le génie du poète ne nous montrait en même temps toute la toile, et qui émettent des aphorismes volontiers solennels qui ne sont jamais le mot de la situation. Mais ce comique n'a pas le rire pour unique destination, car on s'aperçoit bientôt avec étonnement, après avoir bien ri, que la glissade, la culbute ou la fausse note étaient prévues au programme. C'est par cet accroc, par cette petite déchirure, que passent la pitié, la compassion, l'humilité, la grâce et toutes les vertus chrétiennes qui vivent de nos erreurs, de nos maladresses et de nos défaillances. Cependant que le poète installé au premier rang de l'orchestre, ébloui par la profusion divine, applaudit à tout rompre en réclamant l'auteur.
Si le premier thuriféraire de Claudel fut le normalien catholique Jacques Madaul, qui publia successivement « Le génie de Paul Claudel » en 1933 et « Le drame de Paul Claudel » en 1936, toutes les grandes plumes catholiques de la critique vinrent livrer leur vision du poète de Brangues, faire Claudel comme on fait un sommet ou un désert. Trois témoignages vont suivre, émis par Stanislas Fumet, le fondateur du Roseau d'Or, une revue où parut partiellement et tout d'abord Le Soulier de Satin, Albert Béguin, l'exégète du romantisme allemand, grand amateur de Balzac et lecteur de Léon Blois, et Henri Guillemin, qui mena à Claudel la vie dure, celle d'un altéré de vérité et grand déboulonneur de statut. Stanislas Fumet.
Je l'ai aimé à la première lecture, avant la guerre de 1914. J'étais enfant. Tête d'or, puis la ville, l'échange. Ensuite, ce furent les cinq grandes odes et la cantate d'été. Ça m'a paru tellement un idéal que j'ai renoncé à écrire en vers libre. Claudel avait fait mon œuvre, pensais-je, sur ce terrain-là. C'est à la poésie de Claudel que je dois d'avoir écrit en prose. En 1921, à la suite d'une lettre où je lui demandais de se définir, il m'avait écrit de Copenhague ce qu'il pensait être comme poète. Mon ambition est d'être le réunisseur du ciel et de la terre, comme ces anciens czars qu'on appelait les assembleurs de la terre russe, le conciliateur des deux mondes. On a répété depuis assez souvent à son sujet qu'il voulait être ce rassembleur. Et c'est peu de temps après que je l'ai connu à Paris, à son retour de Copenhague. Nous avions été lui rendre visite, ma femme et moi, et je ne sais plus où. À partir de ce moment, quoique nous voyions assez peu, Claudel passait rarement à Paris, nous devînmes très profondément amis, à un double titre, religieux et littéraire. Nous sommes les premiers, je pense, à avoir lu le manuscrit du Soulier de Satin en 1924. Nous avions fondé le Roseau d'Or, Jacques Maritain, Henri Massis, Frédéric Lefebvre et moi, et Claudel, précédemment, nous avait parlé de ce drame énorme, dans le goût espagnol, que devait être le soulier de satin. Ma femme apprit, nous étions en vacances à ce moment-là, que le manuscrit était tapé et qu'un exemplaire pour nous restait chez l'auteur. Elle alla le chercher et sur le champ, l'œuvre la transporta. Elle revint à Orsay, où nous étions en villégiature, et me dit « Tu n'as jamais vu une œuvre pareille, ça dépasse tout ce qui existe en ce moment en littérature, en peinture, en musique. » C'est surtout la première journée, avec sa poésie baroque incomparable, qui la réjouissait. Claudel ne nous autorisait à publier dans le premier numéro des Chroniques du Roseau d'Or que cette première journée. Je dois dire que lorsqu'elle parut, les écrivains qui mettent Claudel si haut furent désorientés. C'est le moins que je puisse dire. Gide, son journal en fait foi, trouvait le soulier de satin lamentable. Gide n'était plus à cette époque-là le critique génial des débuts. À force de résister à la lumière, Gide était de moins en moins pénétrant. Pour moi, la gloire ou la prétendue gloire de Claudel, qui s'identifie trop avec la célébrité, n'est pas digne de lui. Sa vraie grandeur est d'une autre nature, sa valeur réelle, à mon avis, d'une autre qualité. On comprend peu le Claudel des exégèses, le Claudel des interrogations suprêmes. Ce n'est pas un homme de lettres. Ce n'est pas un homme, disait Charles Albert Saint-Gréat, c'est un astre. J'avais dit à Claudel, si vous entrez à l'Académie, je ferai pour la première fois un article contre vous. Claudel se plaignait d'être resté incompris très longtemps. Mais en 1912, nous parlions de lui comme d'Eschyle ou de Shakespeare. Aujourd'hui, il devait se contenter d'une réputation d'un autre genre, d'être l'égal de Jean Giraudoux, d'Henri de Monterland, de Marcel Pagnol. Moi, ça m'afflige. C'est le théâtre qui a trompé. Mais le théâtre de Claudel n'est pas tout Claudel, ou plutôt, Claudel n'est pas qu'un auteur dramatique, c'est l'homme poète de la création, c'est le rassembleur des deux mondes, le ciel et la terre, c'est le rénovateur du langage humain, en français, puisqu'il s'agit, comme il l'a écrit, du latin de Paul Claudel à la fin du 19e et dans la première moitié du 20e siècle. Claudel a fait du langage, de l'âme explorée par un instrument poétique extraordinairement bien orienté, quelque chose de visible, de sensible, de prodigieusement concret. Et, à l'inverse de Victor Hugo, auquel on le compare si naïvement, ce n'est jamais le mot qui engendre sa poésie. Le mot ne vient que pour incarner la chose poétique. Voilà la substance de l'art de Paul Claudel. C'est de l'être sous des images. C'est de la vérité sous des formes qui ont la vie de l'esprit et ça se communique au style. Voilà mon Claudel.
Albert Béguin.
L'installation de Claudel et de son œuvre dans la gloire de ces dernières années ne doit pas nous faire oublier ce qu'a été l'apparition de l'œuvre de Claudel. À partir de Tête d'or, avec les premières pièces de l'arbre, avec ensuite les grands poèmes, les grandes odes, un choc formidable a été donné aux générations qui étaient les générations sans doute héritière de Baudelaire, de Verlaine, de Rimbaud, comme Claudel l'était lui-même, mais baignée aussi dans quelle littérature parisienne. Tout à coup, s'élève un langage tel que depuis longtemps on n'en avait pas entendu. Tout à coup apparaît un poète qui répond à la fois à la vulgarité bourgeoise de l'époque précédente et qui l'écrase, et qui à la fois répond aussi à l'immense question qui avait été posée par ses prédécesseurs immédiats et ses maîtres. Claudel a été converti, amené au seuil de l'église par l'œuvre de Rimbaud, mais en même temps, Il est de ceux qui ont écouté les leçons du professeur Mallarmé. Et je pense qu'on ne saurait mieux comprendre l'œuvre de Claudel qu'en la situant d'abord dans ce dialogue avec Mallarmé. Mallarmé et Claudel, ce sont sans doute deux voix qui, par certains aspects au moins, sont apparentées. Claudel a écouté les leçons de son maître, ses leçons de métier. Il a formé son langage, celui de connaissance de l'Est, par exemple, en tenant compte de l'expérience mallarméenne. Mais l'affirmation, la formidable affirmation claudelienne, vient comme une réponse et un démenti à l'étrange négation mallarméenne. Ce que Mallarmé avait posé devant notre époque, c'est probablement la plus catégorique forme d'athéisme qu'il y ait eu de notre temps. L'athéisme mallarméen est plus radical, plus complet, plus total que ne l'est celui-là même de Nietzsche. L'entreprise de Mallarmé est une entreprise par le langage de désincarnation, de destruction du créé, de suppression des existences individuelles, que ce soit celle des choses, que ce soit celle des êtres. Et face à cette opération magique, étrange, séduisante, fascinante, que Claudel a connue et comprise, face à cette négation-là, l'œuvre de Claudel se pose comme son exact contraire. Le langage, tout aussi magique, tout aussi puissant avec Claudel, est un langage d'incarnation. L'acte du poète, de ce poète que Claudel appelle le rassembleur de la terre de Dieu, est un acte d'éloge de la création. Là où Mallarmé détruisait, Claudel répond « Ces choses sont, et elles sont savoureuses, et il est beau qu'elles soient. » Au début de l'œuvre claudelienne, il y a ainsi une possession des choses charnelles, des choses terrestres. Et l'on peut dire qu'il y a d'abord, chez Claudel lui-même, une présence qui est une formidable présence charnelle. Claudel, c'est cet homme robuste et avide, aussi vorace que pouvait l'être Victor Hugo, qu'il aimait si peu et auquel il ressemblait tant. Comme Victor Hugo, il a dévoré les choses qui peuvent se dévorer, les choses savoureuses. Et puis est venue la conversion claudelienne. Et ce même acte de dévoration des choses de la terre est devenu un acte assez différent, l'acte d'admiration des choses telles qu'elles se posent dans leur harmonie, telles qu'ensemble elles constituent une musique, une symphonie. Poète musicien, sans doute, mais non seulement musicien, parce qu'il est le plus grand inventeur de langage musical de notre époque. Musicien aussi, parce qu'il a eu ce sens de l'ensemble, où toutes choses sont accordées, et que son œuvre, à partir de sa 20e année, et jusqu'au moment où il a cessé de proférer son langage poétique, son œuvre tout entière consiste précisément à faire entrer les choses et à faire entrer les êtres dans cette communion musicale. Et c'est pourquoi aussi Claudel, le poète, essentiellement poète, a été tout aussi essentiellement un homme de théâtre. Claudel, on a dit souvent qu'il était un poète qui écrivait des pièces que l'on ne pourrait pas jouer, qui n'étaient pas théâtrales. Elles ne le sont pas, en effet, dans le sens où le théâtre bourgeois était théâtral, parce qu'elles posent les êtres, les personnages, dans une relation qui n'est plus cette relation anecdotique où la technique théâtrale trouve son jeu normal. Elles les posent dans une relation essentielle. Les personnages, a dit quelque part Claudel, si je me rappelle bien, sont ensemble sur le plateau parce qu'ils ont affaire ensemble, parce que leurs destins sont liés, parce que le théâtre commence là où les hommes sont en communauté, où ils dépendent les uns des autres par des liens mystérieux. Là, pourrions-nous dire, ou comme les choses dans la poésie de Claudel, les êtres humains entrent dans la vaste symphonie divine et sont comme les notes complémentaires qui composent ce discours musical, discours tenu par Dieu lui-même avec ses créatures. Et le poète est celui qui fait des créatures comme il a fait des choses, des formes de la terre, les éléments, les notes, les thèmes de ce discours divin brouillé à la conscience humaine habituelle, mais dont le poète seul retrouve la clé et la juste lecture.
Henri Guillemin s'entretient avec Jean Lacouture.
Claudel est quand même joue un rôle vraiment important dans votre vie, au moins, oui. sur le plan de l'art,
ah oui,
parce que j'imagine que vos christianismes sont vraiment très très distincts, n'est-ce pas? Vous regardez la montagne Dieu pas du tout du même horizon, n'est-ce pas, ou du même point.
C'est-à-dire qu'il était très respectueux de l'Église et qu'il était même, enfin, prosterné devant le pape. Vous savez bien que c'est Francis qui a raconté que quand il avait été invité par Pie XII, parce que Pie XII avait fait une chose révolutionnaire, il avait accepté que la comédie soit jouée au Vatican, parce que c'était du Claudel, et que à la fin, Claudel s'est agenouillé, mais bouleversé devant Pie XII, parce que c'était le pape, et que pour lui, le pape, c'était quelque chose de quasi divin. Et Francis le raconte sans aucun sourire, hein. Alors que moi, ça me fait tordre.
La grandeur de Claudel vous est apparue d'emblée, quand vous parlez du oui. soulier de satin au jeune Bordelais, oui. À la veille de la guerre. Oui. Déjà, pour vous, Claudel est un... Est
une oui, j'ai trouvé grande, que, qu'avec Victor grande... Hugo, c'est un des types qui connaissait le mieux la langue française.
Presque oui. comme technicien. Alors, vous oui. le saluez comme technicien.
Ah, oui. c'est le seul livre que j'ai fait, qu'il soit d'ordre purement esthétique, c'est Claudel... Et son art d'écrire. Hein. Mes autres livres sont très préoccupés de pensées religieuses ou d'une évolution politique. Là, j'ai uniquement parlé de l'écrivain. Parce que j'ai été ébloui par le style de Claudel. Je trouve qu'il a un sens des mots, un sens du rythme. Quand il expliquait, il savait des quantités de textes par cœur de Rimbaud. Hein. Et là, plusieurs fois chez lui, il m'a récité du Rimbaud en me disant « Est-ce que vous avez perçu la modulation? Est-ce que vous voyez ces rapports de timbre ?» Et je n'avais pas discerné. Lui, il me les a discernés. Un jour, chez lui, parce que j'ai été plusieurs fois chez lui, j'étais en train de prendre des notes, et il me dit cette phrase, à laquelle je ne comprends rien, et il m'a fait attention au bruit que vous faites en écrivant. Je dis « Quel bruit que je fais en écrivant ?» Alors il voyait, il avait exprès pris un langage métaphorique. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Mais enfin, voyons, quand on écrit une phrase, on l'entend, cette phrase. Et quand le lecteur lit une phrase, il l'entend dans sa tête. Eh bien, vous faites un certain bruit. Tout écrivain fait un certain bruit qui doit être agréable. Et vous, vos bruits sont pas agréables. Alors que moi, je cherche toujours, me disait-il, est-ce qu'il y a une musique intérieure dans ce que je fais? Parce que je ne me récite pas les mots. Mais quand je les écris, je les entends dans ma tête. Eh bien, de même, faites attention. Entendez dans votre tête les sons que vous tracez sur le papier. Ça, c'est important.
Sur le plan humain, vous avez eu des rapports presque harmonieux avec Claudel, dont vous vous séparez.
Aucune difficulté. Non, je ne parlais pas politique, jamais. Oui, on ne parlait pas politique, c'est bien qu'on s'est toujours très bien entendu. Oui.
Non, puis, mais en dehors de la politique, sa vie, si on peut dire, sociale et économique, par rapport à la vôtre, encore une fois, on revient à son christianisme, oui. tout, vous étiez quand même autant avec Mauriac, les passerelles étaient innombrables, oui. autant avec Claudel, elles étaient coupées.
Oui, alors on n'en parlait pas, simplement. Je me suis tué. Il y a des choses qui m'ont ennuyé chez beaucoup. En particulier, l'Indochine, où il a fait un texte que vous connaissez peut-être, au parachutiste indochinois, qui est pitoyable. Bon, j'avais tourné cette page. Je m'étais dit, avec lui, c'est pas la peine. Mais c'est Claudel, quoi. C'est quelqu'un. Probablement qu'avec Victor Hugo, il y a des choses qui m'auraient agacé. Et Claudel aussi, mais je l'aimais. Non, le mot aimer est excessif. Oui. J'avais une très grande, énorme admiration pour l'écrivain. Et le monsieur était, à mon égard, très gentil, bienveillant.
Vous le dites, il me semble, dans Parcours ou dans d'autres textes, ou dans le dialogue avec Patrick Berthier, il me semble que vous dites qu'au fond, c'était un assez bon homme, alors qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent Claudel comme un homme de génie, mais comme un assez méchant homme, le rapport avec sa sœur, les rapports avec l'argent, Gnomérone, le diplomate, sans parler de l'attitude politique. Il y a beaucoup de gens qui détestent profondément Claudel, tout en admirant la grandeur de l'écrivain. Vous, ce n'est pas ça. Vous ne détestez pas l'homme.
Oh, pas du tout. Non.
Pas du tout.
Non, pas du tout. Je suis navré de certains comportements, c'est tout. Mais figurez-vous qu'il a eu avec moi un jour une confidence presque extraordinaire, puisqu'il m'a dit, vous savez, on me reproche beaucoup d'avoir gagné de l'argent pendant la guerre. Alors, je ne disais rien. Et il me dit, Gnomérone. Et puis, il a prononcé un chiffre. Hein. Il m'a dit, oui, c'est vrai, pendant la guerre, j'ai gagné 700 000 francs, qui étaient peut-être de l'argent allemand. Mais enfin, que vous voulez, alors il fallait que ces ouvriers cessent de travailler. Et c'est là où je me suis... Oui, j'ai dit un mot, j'ai dit, mais monsieur l'ambassadeur, il y a une différence. Ces ouvriers étaient obligés de travailler pour vivre, tandis que ce n'était pas nécessaire pour vous. Ah, mais vous allez trop loin, me dit-il, comme ça. Ah, vous allez trop loin. Mais il m'avait dit qu'il avait gagné 700 000 francs, qui étaient de l'argent allemand, quoi, puisque Gnomérone continuait à faire des moteurs d'avion pour l'Allemagne. Et il est resté. Seulement, c'était Claudel, et vous savez ce qui s'est passé. Hein. Tous les procès, soi-disant, de collaboration économique, ont tous abouti à des non-lieux, tous. On n'a jamais puni personne de ce point de vue-là. De même, les amiraux, enfin, tous ceux qui ont... Non, Claudel s'en est très bien tiré, parce qu'il était Claudel, parce qu'il allait entrer à l'Académie.
Mais enfin, humainement, vous gardez le souvenir d'un homme avec qui vous étiez plutôt bien, si vous voulez dire, quoi.
Oui, il a été gentil avec moi.
Il avait de la drôlerie aussi. Il y a des d'une grande drôlerie. Il y a un mot, je crois, après une conférence, il me semble, après une conférence en Belgique.
Ah oui, oh, c'était formidable. Ah, vous avez dit Belgique alors que moi, je n'avais pas dit le nom dans mon livre. J'ai eu soin de ne pas dire où ça se passait. Alors, je me rappelle l'histoire. Nous sortons, on était avec l'ambassadeur, qui était un ami, un vieil ami de Claudel. Moi, j'étais dans la voiture à côté du chauffeur devant. Je me retournais pour parler à ces messieurs derrière. Et l'ambassadeur, que je ne nommerai pas, lui dit, cher ami, vous avez quelquefois été meilleur. Et Claudel lui répond, je me proportionne. Ce qui voulait dire, c'est pas la peine de me fatiguer pour les Bruxellois. Mais j'ai pas dit que c'était dans Belgique. Je me proportionne.
C'est craché maintenant.
Oui, ça fait rien, quoi. Mais c'est inouï, hein, je me proportionne. C'était une trouvaille, mais d'une dureté. Enfin.
Claudel, plus intime. C'est celui qu'a tenté d'évoquer Henri Mondor, grand médecin, académicien et grand mallarméen, donc grand claudelien.
Eh bien, j'ai quelques difficultés à retrouver, en effet, la date de la première commotion, car il y en eut une. Et d'autre part, je ne faisais absolument pas partie de chapelle littéraire. J'étais à ce moment-là interne des hôpitaux. Et je crois que c'est la lecture d'une revue qui s'appelait L'Ermitage, avec un titre où l'on peut voir une sorte de prémonition ou une sorte de prophétie. C'est dans une revue qui s'appelait L'Ermitage que j'ai découvert des poèmes de Claudel. Le premier, Les Muses, qui est la première des cinq grandes odes, et le second, un poème des vers en exil, duquel j'ai retenu toujours un quatrain qui m'a beaucoup plu, que j'ai sans doute communiqué à beaucoup de personnes, et que vous connaissez certainement, vous qui êtes poète. C'est celui-ci. « Ni le jeune désir, ni la raison qui ruse, ni la chimère ainsi qu'un cheval ébloui ne m'ont été loyaux et sûrs, tout m'a trahi, et ni mon lâche cœur ne m'a servi d'excuse. » J'avais beaucoup aimé ces vers, et dans le poème des Muses, j'ai trouvé que personne n'avait parlé d'elles comme lui. Quand il les évoquait, il leur donnait les noms les plus agréables, il les appelait les chastes sœurs, il les appelait les vierges vibrantes, il les mettait sur le même rang, le rang de la rangée des sœurs éloquentes, où il les appelait encore au conseil secret des nymphes intérieures. Et c'est ainsi que je crus découvrir, en effet, un des très grands poètes imminents.
Oui, et il semble que vous ayez été vraiment ébloui, car il y a une part dans votre livre qu'on pourrait appeler une part d'anthologie personnelle, vous donnez envie de lire ou de relire Claudel. Mais il nous faut passer à votre découverte de l'homme. Et par un biais, si vous voulez bien, dans le même temps, ou à peu près que vous découvriez l'œuvre, vous faisiez l'acquisition de bustes de Camille Claudel, la sœur du poète, l'élève de Rodin. Et dans votre livre, il y a un intérêt qui n'est pas le moindre, et qui touche là vraiment à l'intime du poète, c'est que, me semble-t-il, plus qu'aucun autre biographe, vous vous interrogez sur, c'est le titre d'une de vos collections chez Gallimard, la vocation du poète, et surtout, surtout sur la part que cette sœur extraordinaire a pu y avoir.
Je le crois. Je crois que Camille Claudel, qui avait 4 ans de plus que Paul Claudel, a été très influente. Il l'a à peu près reconnue, puisqu'il a dit « Cette superbe jeune fille, je la revois dans tout l'éclat de son génie et de sa beauté, et aussi dans l'ascendant, souvent cruel, qu'elle exerça sur mes jeunes années. » Je crois que ce « souvent cruel » intriguera beaucoup les scoliastes à venir. Elle était sculptrice de très bonne heure. Elle obligeait Paul Claudel à la ravitailler en anglaise, en argile. Elle a dû lui montrer très tôt une sorte de fougue créatrice, indomptable, car c'est elle qui conduisit sa famille à Paris. Et dans une seconde évocation d'elle, il a dit, à propos toujours de cette superbe jeune fille, il a dit « cette orgueilleuse qui s'est représentée dans une de ses œuvres, à la fois humiliée, implorante et nue, c'était ma sœur ». Je crois que c'est une des exclamations les plus extraordinaires de la littérature.
Vous nous montrez le poète surtout, alors j'entends dans vos contacts personnels avec lui, à partir de 1943, et surtout dans vos rapports à l'Académie. Et il y a beaucoup de saveurs dans ce Claudel plus intime, ce Claudel que certains ont toujours voulu voir comme une sorte de ponte définitif, l'ambassadeur, le monsieur, le bonhomme, même chamarré, très imbu de lui-même. Et vous nous campez un personnage très savoureux qui a son franc-parler, qui est en rupture de banc très souvent. Vous lui prêtez des propos où il y a quelquefois même des points de suspension qui en disent long. Et alors, tout en notant deux sortes de choses dans votre livre, la part de l'œuvre, et à cet égard, je signale aux amateurs la découverte que vous avez faite d'un inédit, d'une première version de La jeune fille Violaine. Il y a d'autre part cet éclairage sur l'homme dans son intimité. Et à ce moment-là, je vais m'adresser aux cliniciens et aux dessinateurs que vous êtes, monsieur. Et nous avons pu voir récemment dans un hebdomadaire que vous aviez recréé, en quelque sorte, par un dessin, votre cher Mallarmé. Si vous aviez à dessiner en quelques traits, de la même façon, Claudel, à quoi le ramèneriez-vous? Comment le représenteriez-vous?
Eh bien, je crois que je le représenterai d'après une photographie de sa 50e année environ que je dois à Madame Claudel, et où ce qu'il avait de puissance, de force, de mâle énergie est parfaitement apparent dans la carrure et dans la structure du visage. Mais je crois que cette photographie est particulièrement heureuse parce que dans le regard, son imagination est très apparente et que dans l'un des coins de la bouche, le gauche, je me le rappelle très bien, le demi-sourire, ou plutôt l'esquisse de l'ébauche d'un sourire est d'une prodigieuse signification.
C'est l'humour claudélien.
Ça doit être l'humour claudélien. Et vous disiez tout à l'heure, en effet, qu'il avait été presque toujours en rupture de banc. Il l'a parfaitement dit, puisqu'il l'a dit « Mon caractère et les circonstances ont fait que j'avais toujours été un isolé. Et je ne vous cacherai pas, disait-il avec une sincérité cynique, que j'ai toujours eu horreur des groupes, des équipes, des compagnies. » Et ajoutait-il drôlement « des mouvements d'ensemble ». Or, je l'ai rencontré assez souvent dans une compagnie qu'est l'Académie, et où il semblait que l'action sédative de celle-ci s'était exercée, car il y avait une humeur excellente.
On n'est jamais aussi bien ou aussi mal servi que par les siens, ceux du premier cercle, ceux de sa famille. En témoigne ce témoignage filial et très clairvoyant de Pierre, fils de Paul Claudel, qu'il évoqua le 3 mars 1965. Il parle de l'insatiable appétit d'espace et de mouvement de son père.
Francis James comparait mon père, très justement, à un paquebot fumant. Et c'est bien l'image qui m'en est restée. Celle d'un homme qu'on ne voit que de dos. Et pour lui, dont la vocation a toujours été de partir, le retour a toujours été plus triste qu'un départ. Le voyageur, écrit-il, rentre chez lui comme un hôte. Il est étranger à tout, et tout lui est étrange. Dès sa plus tendre enfance, mon père n'a eu qu'une ambition, celle de partir. Il est sorti un beau jour du ventre de la maison et il n'y est jamais retourné. Il a quitté sa famille, son pays, et on peut dire qu'il n'est jamais tout à fait revenu. Un certain jour, la séparation a eu lieu et l'exil où il est entré le suit. Il a toujours été sensible à un certain mouvement sous ses pieds qui rythmait sa pensée, au fracas des trains et à la clameur de la mer. Grand marcheur dès sa plus tendre enfance, puis grand navigateur sur tous les océans, il n'a pas cessé de voyager jusqu'à la fin de sa vie et il était très sensible à la poésie des ports, des gares et des chemins de fer. Qu'on se rappelle ce qu'il dit de la grande gare débordante dans l'Ours et la Lune, et de toutes ces stations qu'on traverse quand on revient des vacances à la Pentecôte, dans l'odeur des champs de trèfle, et ce son qui s'échappe de dessous nos essieux, dans la pérégrination nocturne où la marche du train est exactement martelée. Sans oublier la salle d'attente, dont il a si bien parlé dans Figures et paraboles. Cette petite pièce toute noire et sans doute glacée, avec son bronze sépulcral sur la cheminée, son feu éteint et ses meubles rigides recouverts d'un velours immémorial, où, frottant du bout de son gant la vitre embuée, le voyageur retrouve le même fleuve divisé par trois perrons de lignes étincelantes arrivant à toute vitesse de la nuit et se rattachant de l'autre côté à rien de visible. Il n'est pas un mode de locomotion auquel mon père ne se soit passionné. La bicyclette, un cadre sur deux roues, à quoi vient s'adapter la bielle humaine. Je me souviens avec quelle passion il suivait autrefois les étapes du Tour de France aux époques de l'illustre coureur italien Bottecchia. Il a écrit aussi un magnifique texte sur la motocyclette. La vitesse à l'état pur, nous dit-il, débitée par ce cœur explosif au-dessous de notre selle, qui nous invite à l'épouser, à nous unifier avec elle dans une espèce de copulation irrésistible, à dévorer la distance et l'avenir, à venir à bout l'un après l'autre de tous les horizons. Je ne parle pas de l'avion, où il voyait une espèce de poète mécanique qui se soutient et qui marche par l'inspiration. Ce pentacle rayonnant de mesures exactes et de forces entrecroisées, cet ange vertigineux en qui se résume toute l'audace et toute la connaissance du Fils de l'homme. Quant à l'automobile, il ne s'en lassait pas, et de ses longues randonnées à travers la France, il a ramené les conversations dans le Loir-et-Cher. Le grand dialogue de Jules ou l'homme aux deux cravates, ou des petits quatrains digestifs encore inédits dans le genre de celui-ci. Réjouissons-nous si l'Indre à la Loire vient s'ajouter, comme la rose au rosier, comme la grâce à la beauté et le piston au cylindre. Dans les déplacements, mon père voyait une sorte de conquête continuelle, la seule arme efficace contre l'habitude, et la route l'a guéri à jamais de la routine. Une force le poussait, un besoin de l'autre chose et de l'autre part. C'est la nature, nous dit-il, qui mettant sous nos pieds tout un système de pentes, de cols et de paliers, nous engage. Bien plus, on dirait souvent qu'elle nous entraîne et il n'y a pas moyen de lui résister. L'Église catholique n'était d'ailleurs rien d'autre pour lui qu'un chemin, de la porte jusqu'à l'autel et du parvis jusqu'à la pointe du clocher. Ainsi en sera-t-il pour lui de toute cette vie où, hostile à la banquette arrière, jamais il ne s'est retourné, et où toujours il a été de l'avant. À ce grand marcheur de route, tout repos dans le confort et dans l'illusoire était interdit. Il s'en est expliqué dans les vers d'exil. Voici l'heure brûlante et la nuit ennuyeuse. Voici le pas, voici l'arrêt et le suspens. Saisi d'horreur, voici que de nouveau j'entends l'inexorable appel de la voix merveilleuse. Il s'agissait pour lui d'être toujours prêt et disponible, sans jamais cesser de ressentir sur lui ce qu'il appelait la traction du but, afin, en toute chose, d'appréhender, de vérifier et de conquérir. L'histoire de Paul Claudel est celle d'un homme professionnellement hors de tout et à qui l'exil seul a su enseigner la patrie.
Terminons avec l'intervieweur interviewé, Jean Amrouche, dont la voix se fera souvent entendre au long de nos émissions. Il rend hommage à l'occasion de sa mort à ce Claudel dont il fut l'un des grands passeurs.
Il faudrait une certaine impudence pour oser parler de Claudel sur le ton de l'amitié et de la confidence. Philippe Berthelot, peut-être, en aurait eu le droit, et lui seul. En face de Claudel, séparé de lui par un micro, j'ai toujours eu le sentiment que s'étendait entre nous un espace infranchissable, celui qui sépare l'homme de génie de l'individu tout ordinaire qui est admis en sa présence. Pourtant, si conscient qu'il fût de sa grandeur démesurée, et bien qu'il fût déjà installé dans l'histoire, il paraissait tout simple, tout offert, timide et touchant, dans la lourdeur de sa stature et la maladresse appliquée de ses gestes. Dans son parler souverainement précis et lucide, mais tout empêtré dans ses intonations paysannes. Et il fallait traverser la glace sans teint de sa légende pour parvenir jusqu'à lui. Mais pour le toucher vraiment, il fallait lui inspirer confiance, c'est-à-dire lui donner le sentiment qu'on aimait son œuvre et qu'on percevait sans cesse sous les mots le battement de son cœur. Il fallait l'avoir reconnu pour ce qu'il était, entrer dans la fraternité de sa solitude. Alors, je crois bien qu'on entrait dans l'amitié du poète. Oh, il ne s'agissait pas d'admirer et de vaporiser cet encens auquel, comme tout un chacun, il prenait plaisir, non. Il s'agissait d'une sorte de compassion fraternelle, d'une intime participation à son destin, comme l'amitié de Cébès pour Simon Agnel. Le dur Claudel, l'impitoyable Claudel, l'énorme Claudel, si multiple qu'il échappe toujours à notre prise, était sensible à un sentiment de ce genre, et il vous faisait entrer dans sa complicité. Car ce qu'il souhaitait par-dessus tout, c'était d'être compris, et qu'on s'associa à lui en épousant du dedans son admirable et triomphante aventure, qui fut aussi, on l'oublie trop, une aventure profondément douloureuse et humaine. Cet homme de violence et de combat, ce héros dévoré de fureur et de soif, comme il dit de Tête d'Or, avait trouvé à l'aube de sa vie les mots les plus glorieux et les plus justes pour parler de son génie. Ô seul enfant de roi parmi tant de servantes, ô pèlerin unique en marche vers la mer, et pour préfigurer aussi sa mort de chêne foudroyé. C'est le soir par qui s'en va rire le poète, tiré d'un peuple obscur pour n'être jamais vieux. Ce soir l'a accueilli sa merveille, muette, l'accueille la saison éternelle des dieux.
C'est avec la voix de Jean Amrouche que s'achève cette émission, Claudel, témoignage, consacré ce soir au regard critique. Retrouvons-nous demain pour une prochaine émission d'archives claudeliennes, consacrée cette fois aux écrivains. L'émission de ce soir a été réalisée par Annie Douel, mixée par Yves Baudry. C'est une série proposée par François Angelier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 juillet 2005. Demain, à la même heure, dans les Nuits de France Culture, deuxième volet de la série, Paul Claudel, écrivain et musicien.